Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport aujourd'hui avec Pascal Duprat, avec Christophe Cessieux, avec Denis Charvet, avec Fred Weiss. Évidemment, tout à l'heure dans la dernière heure, on va rendre hommage à Coach Courbis. On aura une dernière heure dans le vestiaire, on va se demander si un entraîneur doit absolument être entraîneur, comme disait le coach. Il y aura évidemment aussi ce débat sur eh bien le carton orange. Est-ce que le foot doit le considérer? Vous savez, cette expulsion temporaire qui était chère au coach. Évidemment, je pourrais rappeler que vous pouvez suivre aujourd'hui les obsèques de Roland à Marseille. Allez-y nombreux évidemment à 15h30 pour lui rendre hommage au coach. Ce sera à l'église des Réformés. Il y aura le cortège des supporters dès 14h30. Hein. Suivre sur AMC, sur BFM d'ici, BFM Marseille, BFM Toulon. Je pense que à ce moment ça va être touchant. L'hommage que vont lui rendre les supporters marseillais. Il y a déjà un communiqué. Ça va être poignant. Les amis, juste Clara Gabi. Gabi, on a parlé dans le flash il y a quelques instants. Le Dakar en moto a été remporté donc par l'Argentin Luciano Benavides. Pour 2 secondes, il a renversé l'Américain Brabec qui dominait la compétition. 2 semaines de compétition dans le désert, rally raid, tu perds 2 secondes.
Ah ouais, ouais. Ça pique un petit peu.
Attendez, les gars.
Ouais, mais tu viens de, dans l'autre sens aussi, ça marche. Tu viens de 2 secondes après 2 semaines, c'est incroyable. Ah, non,
c'est comme Fignon à l'époque, 9 secondes de Fignon, je crois que c'était 8 secondes, Christophe. Un truc comme ça, mais par les mondes.
Non, mais en tout cas, c'était comme une poignée de secondes. On s'en remet d'un truc comme ça?
Je sais pas, c'est cruel. C'est cruel et en même temps c'est le sport.
Ouais, mais c'est beau. C'est ça qui rend le sport beau. C'est
Laurent,
cruel, beau.
Laurent Fignon ne s'en était jamais remis. Hein. C'était.
Mais oui, non, mais c'est pour ça. Hein. Là, il y a peut-être des carrières sportives qui se sont
jouées.
C'était
8 secondes.
Jamais je ne l'oublierai. Il dit Jean-René Godard à l'époque au commentaire.
Et Cyril Guimard ne s'en est jamais tout à fait remis.
Retrouvez la première heure des grandes gueules du sport en podcast, évidemment, sur toutes les plateformes.
Juste 2 secondes, c'est le temps de latence de réponse avec David Douillet quand il joue au jeu.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a un gros temps de latence.
Il y a un gros temps de latence.
C'est ça, on a vu la semaine dernière. Hein, quand
en revanche, Julien Benneteau répond avant 2 secondes avant que la question soit posée.
Oui, mais c'est lui qui écrit la question.
Tandis que je me demande s'il n'y a pas un cointance entre la direction du jeu et ce garçon.
Oh là là, mais tout de suite la conspiration.
Ou alors, c'est un énorme bosseur.
Tiens, en parlant de ça, justement, en fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, remportez le maillot signé et authentifié de Tony Parker des San Antonio Spurs grâce à notre partenaire AuthenticSignature.com pour gagner votre maillot dédicacé de Tipeee. Ça, c'est un objet de collection quand même, appelé le 3216 touche 4. Enfin, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez le mettre. Hein.
Non, oui, bon. il faut le mettre, évidemment. Il faut l'afficher.
Sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Bah, quoi, attends, on t'offre un mail de Michael Jordan signé et tu le mets, quoi.
Bah, non, ce sera pas ma taille. Mais,
ah oui, c'est pas sinon, oui.
Ouais. Allez, d'abord. Beaucoup des maillots à ta taille quand même. Il faut les chercher.
J'ai porté déjà.
Ouais, mais il n'y a que toi, quoi.
D'abord, les amis,
peut-on
tolérer des turbulences quand on représente l'excellence?
RMC, le ring des GG.
Et c'est terminé la défaite du Stade Toulousain ici, qui menait 21-0 à la mi-temps, qui a pris 4 essais de la part des Écossais.
La Super Coupe d'Espagne et pour le FC Barcelone, la victoire 3-2 des Blaugrana face au Real Madrid.
C'est terminé avec cette victoire donc de la Lanterne Rouge. Perpignanès, une nouvelle fois, Toulouse qui chute ici à Aimé Giral.
On n'arrive pas à hausser notre niveau de jeu, notre intensité de jeu pour pouvoir gagner ces matchs de haut niveau et ça se répète plusieurs fois depuis le début de la saison.
Le cauchemar pour la première d'Alvaro Arbeloa. Le Real Madrid tombe face au 17e de 2ème division.
Et Toulouse qui s'incline ici à Londres, qui s'incline sur cette dernière possession des Saracens.
Pour l'instant, factuellement, on fait 2 matchs à l'extérieur qui ne sont pas de notre calibre. Contre 2 très bonnes équipes, mais qui ne sont pas de notre calibre.
Il va falloir qu'on soit capable de se regarder, de se dire les choses, de savoir quoi on n'y arrive pas.
Attention, ça chauffe dans les clubs les plus titrés de 2 sports importants. En foot, le Real Madrid en crise après avoir viré son entraîneur Xabi Alonso, puis l'élimination en Coupe du Roi contre une équipe de 2ème division derrière. Plus proche de nous, en France, en rugby, le Stade Toulousain, vous l'avez entendu, avec déjà 2 défaites en Champions Cup, est au bord de l'élimination. Ce serait historique, hein. C'est pas arrivé depuis 10 ans à la phase de poule. Il faut absolument s'imposer aujourd'hui à 18h30 face à Sale. Évidemment, c'est à suivre sur RMC. Les GG, je vous pose cette question sur le ring aujourd'hui. Stade Toulousain, Real Madrid, on les met dans le même chapeau. Un club extraordinaire un temps ordinaire. Est-ce acceptable? J'ai deux noms, ceux de Fred et de Pascal. J'ai deux oui, Denis et Christophe qui est un peu plus nuancé quand même, mais que je range dans le camp du oui. Vous votez sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Pour l'instant, vous êtes 64% à dire oui, c'est acceptable, quand même. On en parle évidemment avec vous au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Wilfried Templier, notre voix du rugby et correspondant à Toulouse, est avec nous. Salut Wilfried.
Salut tout le monde.
Salut Will. Salut Will. Bonjour Wilfried.
Salut Will.
Bonjour.
Fred, toujours très enthousiaste quand Wilfried arrive.
Moi, j'adore.
C'est ton amour du rugby et de l'Ovalie.
Et non, surtout de Wilfried Templier.
Tu détestes le rugby, t'aimes Wilfried Templier.
Mais j'ai jamais dit que j'ai testé
le rugby. J'ai du mal à le dire, Wilfried Templier.
Wilfried Templier, sans aucun problème.
Exceptionnel, Wilfried Templier.
Wilfried Templier est incroyable.
La bienveillance est partout, sauf dans ce studio. C'est une situation assez inhabituelle, Wilfried, pour le club le plus titré d'Europe. Comment on passe cette zone de turbulence à Toulouse en ce moment?
Ouais, c'est vrai, tu l'as dit, on n'est pas trop habitué. Sur les 7 dernières années, le Stade Toulousain a au moins été en demi-finale, au moins en demi, avec 2 trophées à la clé. Donc déjà, Antoine Dupont nous parle de la semaine que le groupe a passée.
Bah, comme une semaine, quand tu perds un match important, forcément l'énergie elle est différente. Même si on arrive à garder cette bonne humeur, évidemment que bah, il y a un peu plus de tension et de pression, parce que ce match il compte vraiment pour le coup.
Car disons-le de suite, à la question de savoir si, quand on s'appelle le Stade Toulousain, ce serait une catastrophe d'être éliminé ce soir en poule de Champions Cup, oui. Bah, l'arrière, Thomas Ramos répond tout de suite.
Oui, voilà. Il n'y a pas plus clair comme réponse. Quand tu dis, on est le Stade Toulousain, donc on se doit d'être un, compétitif dans les deux compétitions dans lesquelles on joue, et deux, avec le groupe qu'on a, l'effectif qu'on a et les ambitions qu'on a, oui, ce serait catastrophique, c'est une évidence.
Bon, est-ce que Sale, 7e du championnat anglais, déjà qualifié, peut faire tomber Toulouse? C'est une autre histoire, mais au-delà de cet enjeu, Ramos pose un double constat. Bah, les autres veulent à tout prix faire tomber Toulouse.
Quand on voit comment les Saracens sous Glasgow ont célébré leur victoire après le match, tu peux les laisser penser qu'ils ont gagné la compétition. En fait, non, ils ont gagné juste un match, mais ils ont gagné peut-être le Stade Toulousain. Donc, c'est de constater que c'est des équipes qui ont envie de nous gagner, et c'est légitime.
Et on ne laisse pas passer grand-chose à son équipe.
Quand tu habitues les amateurs de rugby, les fans de rugby, à avoir des résultats comme on a et une constance comme on a depuis forcément quelques années, toutes les questions qui se posent après deux matchs perdus en Champions Cup, forcément ça interroge et c'est normal. Mais je pense que quand cette génération s'arrêtera, les gens réaliseront ce qu'elle a réussi. Et peut-être les gens s'en lassent aujourd'hui, mais peut-être bientôt diront « mince, dommage qu'ils ne sont pas encore là ». Donc l'indulgence, oui, peut-être. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'on demande. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est nous, en tout cas, voilà, d'avoir une réaction et qu'elle ne dure pas que ce week-end et le week-end d'après à domicile, mais qu'elle dure un peu plus longtemps jusqu'à la fin de la saison.
Et qui sait, Toulouse sera peut-être encore capable d'aller chercher un titre à ce moment-là.
Et pardi.
Mais ben, ça, c'est un bon mot de la fin, ça. Et pardi.
Et quand
boudu.
Et quand bien même.
Roland aurait pu le dire.
Ah oui, d'accord. Bah, c'est bien parce que dès qu'on dit n'importe quoi, on se dit Roland aurait pu le dire. C'est facile
Roland,
comme ça.
Aujourd'hui.
Pardi, c'était l'expression que disait mon grand-père.
Pardi. Merci Wilfried. Tu restes avec nous, évidemment. Un club extraordinaire, un temps ordinaire. Est-ce acceptable? C'est intéressant d'écouter Thomas Ramos, c'est toujours excellent en conférence de presse. Thomas Ramos. Non, mais Denis, tiens, t'as joué au Stade Toulouse. Toi, tu dis oui, c'est acceptable. Mais comme acceptable 64% des votants.
J'ai du mal par rapport à l'intitulé. Moi, je pense que ce Stade Toulousain n'est pas un club ordinaire. N'est pas ordinaire en ce moment, je veux dire. C'est ça qui me choque. C'est toujours un club extraordinaire. Moi, je suis allé voir le match Toulouse-La Rochelle. Oui, je crois qu'ils n'ont jamais fait il y a 15
les
jours.
Les résultats de Toulouse ne sont pas ordinaires.
Il y a 3 semaines, ils ont fait le meilleur match depuis ces 5 dernières années contre La Rochelle. J'étais au match. Donc, si tu veux, ils sont passés après de La Rochelle à Glasgow avec, sur des conditions de atmosphérique, et Wilfried est toujours là, il peut le tester.
Il a encore les t-shirts mouillés.
Non, mais dans des conditions détestables, que ce soit à Glasgow, que ce soit contre les Saracens.
Il y a des circonstances atténuantes.
Absolument, absolument. Et je peux te dire que c'est ce manque de maîtrise. Alors, c'est vrai, ils ont un flottement d'un quart d'heure contre les Saracens, mais ce match, ils se le perdent plus qu'ils ne.
Après, c'est Hugo Mola qui a utilisé le mot ordinaire. Hein,
oui, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que Saracens, ils doivent 1000 fois gagner. Bon, ils échappent ce match, mais ils sont dans le match quand même pendant 25-30 minutes. Ouais,
mais est-ce que c'est suffisant pour Toulouse? C'est une vraie question. Est-ce que c'est suffisant pour Toulouse?
Il y avait plus de 10 ans qu'ils n'avaient pas perdu un match en phase de poule de Champions Cup, Denis.
Non,
c'est en ça. Non, ils avaient.
Non, il y a plus de 10 ans qu'ils ne sont pas fait éliminer.
Non,
ils ne sont pas fait éliminer
en demi-finale. C'est pas la même chose.
Non, en poule. Ça fait plus de 10 ans qu'ils ne sont pas
sortis de poule. Oui, mais ils avaient déjà perdu des matchs en poule. Ça, c'est arrivé. C'est arrivé, il y a des matchs en poule. Mais qui s'étaient fait éliminer, non. Depuis 10 ans, non.
En poule, ils ont perdu, si, ils ont perdu deux matchs pendant le Covid. Mais c'était des matchs parce qu'ils n'avaient pas assez de joueurs.
Non, mais là,
l'ordinaire de Toulouse, Denis, c'est de gagner au moins tous ces matchs de poule et d'aller en demi-finale de la compétition. Donc là, ils n'y sont pas encore. Là, ils viennent de perdre deux matchs à l'extérieur. Où tu as vu que Toulouse perdait deux matchs à l'extérieur?
Pascal, toi, tu dis.
Moi, j'ai répondu. Ouais, je suis content de vite prendre la parole parce que mes amis toulousains, ils vont dire, putain, il est dur, lui. Non, mais, comment dire, c'est pas acceptable, cette période un peu ordinaire, cette toute petite période de disette pour un grand club comme le Stade Toulousain. Et ce qu'il y a de bon à savoir, c'est que c'est surtout dans le vestiaire que c'est pas acceptable d'être ordinaire. Donc, ils vont vite rectifier le tir parce que autour de
cette... Moi, je suis pas d'accord.
Non, mais c'est pour ça que je te dis, et malgré tout, le fait de perdre deux matchs alors que tu mènes 21-0 à la mi-temps à Glasgow, bon, Toulouse, normalement, 21-0 à la mi-temps, même s'il pleut, même s'il neige, même s'il tombe des cailloux, les autres viennent pas, t'es d'accord avec moi?
Non,
donc ça a déclenché quelque chose. Donc, laisse-moi finir, Denis. Et en fait, ce que je pense, sincèrement, c'est que c'est presque bien. Et Hugo, il s'en sert bien. C'est presque bien parce que ça retend tout le monde, ça reconcentre tout le monde. Et puis il y a personne ici autour du plateau qui peut parier que Toulouse va perdre d'ici la finale de Champions Cup et d'ici la finale du championnat. Toulouse est capable de battre tout le monde dès à présent jusqu'à la fin de saison.
Le seul problème, c'est que si tu te qualifies au-delà de la deuxième place, tu vas jouer tous tes matchs à l'extérieur et là t'as quand même des cadors. J'ai l'impression que le niveau s'est un peu resserré en Champions Cup cette année et donc c'est vraiment un parcours.
Et comme t'es les meilleurs, c'est pas grave.
Après ça, c'est un autre débat. Est-ce que Toulouse va aller plus loin? Là, on parle de la séquence actuelle. Est-ce que c'est acceptable de voir un club extraordinaire, peut-être un temps ordinaire, comme l'a sous-entendu même la.
C'est aussi parce que Hugo, il est victime de sa com. En fait, en début de campagne de Champions Cup, il a dit qu'il faut tout gagner parce qu'il se souvenait de l'année dernière où il a été contraint d'aller jouer à l'extérieur à l'UBB.
C'est lui qui a dit qu'on est une équipe ordinaire. C'est lui qui a passé ce mot-là.
Fred, tu as joué dans une équipe extraordinaire. Oui. Limoges en basket, qui a été champion d'Europe, où il y avait une exigence comme il y a là actuellement au Stade Toulousain ou au Real. Vous acceptiez d'être... Un peu moins bon, en fait,
réellement, moi je suis d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire que ça devrait être acceptable parce que effectivement maintenir ce niveau d'excellence, c'est extrêmement difficile. Être toujours à 200%, c'est extrêmement difficile. Gagner tous ces matchs, c'est extrêmement difficile. Sauf que ça, c'est un vœu pieux. Il faut se rendre compte que les supporters, eux, ils sont habitués à gagner. Les supporters, ils ont l'habitude de voir leur équipe dominer, ne pas avoir d'inquiétude, gagner tous les trophées. Et donc, d'un seul coup, on se retrouve avec des supporters qui, quand je suis arrivé à Limoges, on disait, ils connaissent bien le basket. Non, c'est pas qu'ils connaissent bien le basket. Ils sont habitués au caviar, en fait. Et quand t'es habitué au caviar, et que tu perds des matchs, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, je pense que les supporters de Toulouse, par exemple, Toulouse, ça va. Sauf que ça peut dévier rapidement. Parce que quand t'es trop habitué à des très bonnes choses, c'est compliqué. Ensuite, on parle d'une équipe ordinaire. Tu penses que quand Toulouse se déplace, c'est l'équipe ordinaire? Tu penses que l'équipe en face considère que Toulouse
c'est la meilleure équipe du monde?
C'est la meilleure équipe du monde. Ils veulent les manger. Donc, t'es jamais dans cette situation d'équipe ordinaire.
Mais toi, quand tu perdais avec une équipe extraordinaire, c'est quoi? Vous aviez honte dans le vestiaire?
On avait honte, bien sûr, parce qu'on était, on était programmé pour gagner, mais sauf que c'est trop facile de dire la meilleure équipe a gagné. C'est pour ça que je dis, je vous rejoins un petit peu.
Oui, parce que
parce qu'à un moment, le Toulouse ne sera jamais une équipe ordinaire. Et donc, forcément, à partir de là, ils auront une cible dans le dos. Les supporters seront plus exigeants. Les joueurs eux-mêmes seront plus exigeants. Les coachs seront plus exigeants. Parce que quand tu joues dans une équipe qui est habituée à gagner, qui est habituée au caviar, si vous me passez une nouvelle fois cette expression, tu peux pas manger des œufs de l'Olympe.
Et Louis Enrique a dit avec le PSG, par exemple, cette semaine, en répondant aux journalistes, il a dit, on peut pas gagner tous les matchs.
Mais si la copie était très très mauvaise, si Toulouse était passé complètement à côté de son match, je te dirais oui, c'est devenu une équipe ordinaire un temps.
Oui, mais c'est pas le cas. Bon, alors parlons du Real Madrid.
Complètement d'accord avec toi, Denis. Denis, il y a eu quelques trous d'air quand même, Denis. Ils ont pris 17-0 en 10 minutes en fin de première période au Saracens et 28-0 à Glasgow en deuxième mi-temps. C'est pas habituel. Oui, non, mais c'est pas une habitude pour Toulouse, Denis, de perdre la maîtrise du match comme ça.
Car juste Fred parlait de comment ça peut être reçu à Toulouse quand on est habitué au caviar. On a Jean-François, supporter du Stade Toulousain avec nous, 32-16. Salut Jean-François.
Salut, je suis en train de finir ma tartine de caviar, les mecs. Hein.
Ah, et si le matin tu manges du caviar, tu
rouges et noir comme ça.
Bah, après, on va faire au foie gras et à 18h, on pourra aller au homard.
Oh là là.
Mais c'est ça, et qu'on mange à Toulouse.
Et pas le cassoulet.
Le cassoulet.
Un peu cher tout ça, mais ça doit pas être désagréable.
Ouais, c'est
bon, François, tu trouves ça acceptable, toi, peut-être qu'il y a une séquence un peu où vous êtes un peu plus ordinaire, comme le disait Hugo.
Un peu plus ordinaire, déjà. Je me trouve dur quand même.
C'est le coach qui l'a dit.
C'est le coach. Alors, est-ce que ça serait pas un élément de langage pour mettre une pièce à tes joueurs?
Ah bon?
Et il va faire, et tu vas voir, il va y avoir 15 Lyons ce soir à 18h30. Et écoute-moi, les Anglais, ils vont en prendre 40 et des bouffes.
40
des bouffes. Et nous, on va leur rouler dessus aux Anglais.
C'est sûr.
Donc, effectivement, on a fait deux mauvais matchs. En fait, quoi, une très mauvaise seconde période à Glasgow, parce qu'on menait quand même 20-0 à la mi-temps, mais en seconde période, on a été mauvais. Après, on a été mauvais dans des conditions particulières, certes. Et c'est un peu pareil sur les Anglais la dernière fois, au Saracens, c'est un peu pareil. Dans des conditions momentanées où on fait en avant sur en avant, on n'a pas su gérer le vent comme il faut. En top 14, on est bien. Si on gagne ce soir, et j'ai pas de doute sur le fait qu'on gagne ce soir, on va être qualifié. Certes, le parcours sera plus compliqué. Mais il faut pas non plus, alors c'est, bon, après, il faut bien faire des débats, le samedi matin et le dimanche matin. Hein. Ouais,
surtout quand c'est le coach qui nous donne un langage, hein. Nous, on prend
oui,
les écoutes.
Il a mis une pièce à ses joueurs. Tu crois que c'est pas des compétiteurs? Tu crois que Ramon, il va pas rentrer sur le terrain?
Jean-François, tu fais ça quand t'es dans un club extraordinaire, justement, et que t'as besoin de piquer un peu. Tu utilises des éléments de langage. C'est pour ça qu'on en parle.
Mais oui, c'est pour ça qu'on en parle, mais je trouve que c'est plutôt intelligent de la part de
Hugo. Mais c'est la tactique habituelle. Guy Noves faisait exactement la même manière.
Oui, mais c'est juste.
C'est pas très difficile, hein. S'appuyer sur l'histoire, c'est pas très difficile. Sur l'histoire, on a été exceptionnel. Faut qu'on continue à l'être. Ne soyez pas la génération minable.
Oui, mais moi, je continue à dire que ils sont pas ordinaires, mais lui, il met le pièce justement pour le rendre ordinaire.
Oui, si tu veux.
Bien sûr. On le sait.
Et Denis, pour l'anecdote, ça, je sais pas si ça a marché, mais Thomas Ramos, en fin de conférence de presse, c'est la dernière question qui lui a été posée. Hugo Bola a dit que vous étiez devenu ordinaire. Et Thomas Ramos a répondu, je vais pas commenter ce qu'a dit Hugo.
Ah oui, voilà, c'est ensemble. Bien sûr, ça marche.
Les égos des sportifs, c'est magnifique.
Avec Christophe, tu voulais insister sur le Real Madrid, toi, sur la comparaison.
Bah, alors, le Real Madrid, c'est le Stade Toulousain puissance 10.
Ils sont en crise en ce moment.
Parce que là, c'est la crise, mais la crise ne passe pas du tout ni auprès des socios, ni auprès de tous les médias qui entourent le club. Madrid qui perd deux matchs de suite, qui se fait éliminer par le Barça. Là, c'est une crise nationale quasiment. Je pense que Toulouse n'est pas tout à fait au même niveau que le Real en termes d'attente des supporters et de tous ceux qui entourent le club.
D'accord avec toi, Christophe. Non, mais surtout, la crise au Real, elle est réelle. Tandis qu'à Toulouse,
elle est très ponctuelle.
Ils sont deuxième,
ça fait quand même l'année dernière.
Ils sont dans le top 8 de Ligue des Champions.
Oui, mais une année sans titre, ça arrive après une année sans titre. Ça fait un moment que le Real est pas à ses standards.
Mais là, habituels. Ils sont perdus d'entraîneur.
Mais effectivement, à Madrid, tout prend des proportions hallucinantes. Et c'est pour ça que les joueurs et l'équipe du Real Madrid n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de devenir ordinaire. Quand elle devient ordinaire sur 2-3 matchs de suite, c'est la catastrophe nationale. C'est peut-être pas le même niveau en France avec le Stade Toulousain. C'est le même niveau, par exemple, avec les All Blacks. Vous avez vu qu'ils viennent de changer de sélectionneur. Parce que en Nouvelle-Zélande, quand les Blacks perdent un ou deux matchs,
les 27 derniers matchs, ils en ont gagné 20 quand même.
Mais ils en ont perdu 7.
Et deux ans de contrat.
Mais même pour nous, à l'extérieur, quand les Blacks perdent, c'est surprenant pour nous aussi. Non, vraiment.
Mais parce que c'est une match comme équipe, c'est l'excellence. Mais en fait, ça doit être au quotidien, ça doit être quand même. Tout le monde n'est pas prêt à accepter
ça. C'est une pression de tous les instants. Et encore une fois, maintenir cette excellence, c'est quelque chose, c'est un travail extrêmement difficile. En fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile. Et c'est pour ça que j'ai demandé Toulouse. Parce que Toulouse, c'est une machine à gagner. Sauf que parfois, la machine, elle s'enraye un petit peu. Et ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas excellent pour autant. Ça s'enraye un petit peu. Voilà, c'est la vie.
Oui, c'est
ponctuel.
On verra ce que donnera Kinghorn en 10 aujourd'hui.
Il a choisi Ramos,
lui. A priori,
Wilfried. Oui, c'est Kinghorn qui joue en 10 et Ramos à l'arrière. Okay. Ils maintiennent cette option. Et juste en 5 matchs, Toulouse n'a jamais perdu contre les Anglais de Sale en Coupe d'Europe. Ils peuvent encore sortir deuxième de poule s'ils battent Sale avec le bonus offensif. Voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas perdre, surtout si les Sharks de Durban, les Sud-Africains, battent clairement en début d'après-midi. Et bien, Toulouse sera virtuellement éliminé avant de jouer Sale. Mais voilà. Et ils peuvent aussi, comme l'année dernière, sortir deuxième.
Et Pardi. Stade Toulousain, à 18h30.
Pas loupé, s'il vous plaît.
Exactement.
Avec Wilfried au commentaire.
Quel enthousiasme.
Bah ouais, non, mais
il se rappelle plus de ça que du match de handball.
Oui, oui.
Il y aura les deux matchs en même temps.
Il avait oublié surtout la balle.
Un club extraordinaire, un temps ordinaire, est-ce acceptable? Vous avez voté, vous dites oui à 64%. Donc ça s'est maintenu sur le compte XD GG. Dans un instant, on file à Melbourne en Australie. C'est le premier grand chelem de la saison. On remercie Wilfried Templier d'avoir été avec nous.
Salut.
Et on ira effectivement de l'autre côté de la planète, puisque le premier grand chelem arrive. Est-ce que Alcaraz Sinner, c'est si formidable que ça, comme le dit Roger Federer? A tout de suite dans les grandes gueules du sport.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Dans un instant, j'y crois pas. On va parler foot. On va parler de quoi? Tiens, non, j'y crois pas tout à l'heure. On va parler également de Formule 1, de tennis aussi. Mais oui, effectivement, on va en parler. Je vous rappelle qu'on est à J-20 des JO d'hiver, également Milan Cortina. C'est la radio officielle aujourd'hui. Il y a plein d'événements à suivre avec midi 30, notamment la descente mythique du Loberhorn à Wengen. Il y aura du biathlon également à 14h30. Et ce soir à 19h30, ne ratez pas le patinage artistique avec nos Français, emmenés par Guillaume Cizeron, qui peuvent être sacrés en danse sur glace en piste vers Milan Cortina. C'est à 15h tous les dimanches avec Christophe Schramm. Mais d'abord, un punchline de la semaine signé Roger Federer.
RMC. La punchline GG.
Yeah, I mean the rivalry between Alcaraz and Sinner, I think is.
La rivalité entre Alcaraz et Sinner est magnifique. Ils jouent un tennis incroyable. Je pense que la finale de Roland Garros était irréelle. Je pense que le tennis n'a pas besoin de cette rivalité, mais c'est génial que nous l'ayons. Et puis tout d'un coup, ça s'est terminé de la manière la plus folle possible. C'était peut-être l'un des meilleurs matchs que nous n'ayons jamais eu dans notre sport. Donc je pense que c'est bien. Nous vivons un moment génial. Et puis ils ont continué en jouant toutes les autres finales.
La voix du maître, Roger Federer, qui était de passage en Australie. D'ailleurs, on l'a vu jouer, son revers est toujours incroyable. Vous l'avez vu ou pas?
Ça se perd pas, ça.
Non, mais l'élégance, c'est dingo.
Il a fait un tie-break avec je sais plus qui.
Avec Casper Ruud.
Casper Ruud.
Ouais, impressionnant.
Et il l'a battu.
Bah, ouais, il a arrêté il y a pas longtemps, genre.
Roger Federer.
Il a quand même le geste encore.
Ah oui, bon. Enfin, tu penses que c'est toujours bon pour.
Non, je crois qu'il est encore sur le cours d'après Eric Salio.
Il est encore sur le cours.
Ouais.
Ok, bon, on va en parler dans quelques instants.
Peut-être qu'il est en train de préparer son comeback, hein, c'est ton jeu.
Ouais, bien sûr.
Vous imaginez. C'est la véritable reprise de la saison en tennis. Donc, avec le premier grand chelem, l'Open d'Australie débute la nuit prochaine à Melbourne. Deux grandissimes favoris, Sinner et Alcaraz, vainqueurs de tous les grands chelems depuis 2 ans. Federer, donc, qui est en Australie, vous l'avez entendu, il a dit ceci, en gros, hein, la rivalité, elle est formidable, elle est géniale, entre Sinner et Alcaraz. GG, moi, je vous pose la question ce matin. Est-ce que cette rivalité est si formidable que cela? C'est un peu nuancé. On va voir ça dans quelques instants, mais d'abord, je voudrais qu'on aille en Australie. Ça nous coûte un peu cher de l'envoyer de l'autre côté de la planète, donc autant en profiter. C'est Eric Salio, notre voix du tennis, qui est à Melbourne. Salut Eric.
Good evening. Bonsoir tout le monde.
Salut, Eric. Ah oui, on dit genre
qu'il est parti. Il est parti en barque, hein, donc
quelle heure il est pour toi,
Eric? On est déjà en evening.
Quelle heure il est? Et quelle heure il est chez vous?
Nous,
ça fait 20h35, ouais. Et effectivement, vous avez eu du nez. Ils sont forts, les Australiens, parce qu'il y a eu l'exhibition, là, qu'on a vu, le 1 Million Point. Et là, il y a la cérémonie d'ouverture. Et ils ont eu un double messieurs assez fabuleux avec Hewitt Rafter, donc les Australiens qui étaient opposés à Federer, à Agassi.
Wow.
Et comme Agassi, bon, il commençait à boitiller, et ils l'ont remplacé, papy, par Ash Barty. L'Australienne, évidemment, la Rod Laver Arena est pleine à craquer, les billets sont arrachés, donc ils sont très forts en marketing.
En marketing. Déjà, ils font une cérémonie d'ouverture, quand même.
C'est quand même un truc.
Eric, est-ce qu'en Australie, tout le monde ne parle que d'Alcaraz et Sinner? Concrètement.
Pas encore, parce que il faut pas oublier Novak Djokovic, qui a donné une conférence de presse très intéressante tout à l'heure. Il a conscience que ces deux-là sont au-dessus de tout le monde, mais il dit il y aura des opportunités. Il faut savoir saisir les chances. Mais c'est vrai qu'en Australie, on n'a toujours pas eu une finale Sinner-Alcaraz. C'est le seul grand chelem. On n'a pas eu la chance d'assister au duel des cadors. On se souvient que l'an passé, Alcaraz s'était un peu troué contre Novak Djokovic en quart de finale. Donc là, il a très envie de revanche. Et puis surtout, il deviendrait le plus jeune joueur à gagner les 4 grands chelems. Ça laissera une trace supplémentaire dans l'histoire. Donc il y aura un gros enjeu pour essayer de déboulonner Yannick Sinner, double tenant du titre.
La rivalité Alcaraz-Sinner est-elle si formidable que cela, comme dit Roger Federer? Christophe,
La rivalité, ouais, allez, il y a deux côtés. Moi, je la trouve formidable sur le terrain, parce que c'est vrai qu'après le retrait des trois géants, on n'imaginait pas que deux joueurs de même talent puissent s'opposer et nous livrer des matchs comme la finale de Roland-Garros, qui reste pour moi l'un des trois plus grands matchs de l'histoire, avec la finale 80 entre Borg et McEnroe et celle de 2008, toujours à Wimbledon, entre Nadal et Federer. Donc franchement, c'est extraordinaire. Et puis, c'est bien d'avoir au moins deux champions qui se tirent la bourre plutôt qu'un seul en matière de cyclisme, oui, par exemple.
Ça, d'accord.
En cyclisme, on a Pogacar, et puis le reste, c'est un peu...
Il y avait Vingegaard, mais pas longtemps.
Mais parce qu'il y a toujours un mais, il me manque quand même un petit quelque chose pour m'enthousiasmer totalement entre ces deux-là, c'est... Mais le fait qu'il y a peu de... ils sont trop copains. Je les trouve trop copains.
C'est pas vrai. Parce que je suis pas d'accord avec
moi. Moi, je suis exactement sur la même ligne que Christophe. Sur le terrain, c'est le feu et la glace. On a l'impression que c'est la grâce contre le robot. Mais... Et c'est magnifique. On sait pas qui va gagner. On a des joueurs de tennis fantastiques.
Tu les adores.
Franchement, il faut rappeler que je les adore. Comme quoi, je te remercie. Mais quand je les vois jouer, moi, pour moi, c'est un spectacle fantastique. J'ai la bouche ouverte. C'est incroyable que j'en... Sauf que, ils sont potes. Mais je déteste ça. T'es pas pote avec ton rival. T'as envie de lui bouffer dessus. Entre chaque point, tu le regardes méchant. T'as envie de lui en mettre une mètre sur la tête. Et les mecs, et les deux là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent jouer en double ensemble presque.
On est
le numéro 1 et numéro 2 mondial. On a envie de se bouffer. On a envie d'être les meilleurs. Et on a marre de cette...
Non, mais arrête.
On n'est pas chez les bisounours.
Pascal imagine le presque se mettre...
Vous croyez, c'est pas parce qu'il montre pas.
S'il vous plaît, on comprend rien. Pascal est énervé.
C'est pas parce que, oui, c'est pas parce qu'entre les échanges, ils ne montrent pas leurs sentiments, qu'ils ont pas la haine après l'adversaire sur l'instant. Donc voilà, ils sont amis, tant mieux. Et puis ils nous montrent que sur la terre.
Pas tant mieux déjà.
Non.
Bah si, vas-y, tant mieux qu'ils soient amis dans la vie. Bah c'est pas que la guerre, c'est du sport. Oh.
Et quelle naïveté.
Et ensuite sur le terrain, ils se retiennent pas, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et ça donne des matchs comme Roland Garros. Moi je me régale de les voir. Je suis fan des deux pour des raisons complètement différentes, mais franchement ça n'altère en rien le fait que ce duel-là est exceptionnel sous prétexte qu'ils sont copains dans la vie. Ça a absolument rien à voir.
Mais non, mais c'est bizarre.
Il y a pas de perdition en termes de jeu, en termes de compétitivité.
Mais on a besoin parfois d'histoire en dehors.
T'es très naïf, Fred. Il y a les apparences. Avec Stéphane Brun aussi, pareil.
Ça se passe très bien avec Stéphane. Et c'est vrai qu'on n'est pas les meilleurs amis du monde, mais c'est comme ça.
Non, mais je plaisante. Mais c'était un peu naïf parce que en fait, sur le terrain, ils veulent se bouffer. Tu le vois, Roland Garros, excuse-moi, un des meilleurs matchs de tous les temps. Tu les vois, mais ils se bouffaient l'un et l'autre.
Mais c'est pas ce que dit Fred, hein, je pense. Hein.
Si, c'est ça.
Mais Fred, il veut voir quelque chose en plus.
C'est pas du tout ça. C'est que je veux qu'ils se créent quelque chose.
Mais ils sont pas amis dans la vie. Il y a que toi qui crois.
Ils sont amis, ils veulent même jouer en double ensemble.
Et alors
donc, ils sont extrêmement proches.
Mais parce qu'ils sont pros, parce qu'ils veulent perdre du pognon, ils veulent jouer en double. Qu'est-ce que tu crois, toi?
Denis, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu as le plus aimé entre Federer et Nadal? C'était l'arrivée de Djokovic, le méchant, celui qu'on avait envie de
résister. Et Nadal,
c'est là que ça
arrive. Il faisait pareil que Sinner.
Mais l'avantage, c'est qu'ils avaient le troisième.
Ils avaient le troisième,
qui arrivait et qui mettait le Joker.
Alors, toi, le Djokovic de Djokovic.
Il est peut-être encore là.
Mais ça n'enlève rien du fait qu'on se régale de voir jouer.
Mais c'est ce qu'on a dit depuis le début. Tu
vois, tu ne m'écoutes
pas.
Non,
tu ne m'écoutes pas.
Non, je vais aller au bout quand même. Parce que moi, je m'en fous qu'ils soient mis dans la vie. Quand je vois le spectacle sur le terrain, pour moi, l'essentiel, c'est
parce que toi, t'es allé avec tout le monde, t'as pas un ennemi dans la vie, c'est pour ça aussi.
Mais moi, le sport, je l'aime sur le terrain. Je suis pas comme toi, on a le pinball derrière.
Moi, j'ai besoin de tout. J'ai besoin d'historique.
Ça a mis du temps à démarrer aujourd'hui.
Mais on s'en fout. Justement, on n'a pas envie qu'ils soient amis. Des rivaux ne sont pas amis.
Mais franchement, Fred, alors franchement, faut qu'on se déteste alors pour que l'émission soit bonne.
Mais pour l'émission, on se déteste.
Voilà.
D'accord, mais il fallait nous le dire, ça fait bientôt, je sais pas combien d'années qu'on a fait.
Soit nous, on se tape dessus, et après il y a un œil d'honneur, et on s'embrasse.
Toi, parce que tu tapais pas les mecs en rugby. Où tu tapais les mecs en rugby, Denis?
Oh, tais-toi.
Ça fait une bagarre générale de ta vie.
Tais-toi.
Attends, Eric Salio, juste. Eric, ils sont vraiment potes, Alcaraz et Sinner?
Oui, oui. Et puis en plus, le fait qu'il y ait beaucoup d'exhibitions qui soient organisées autour d'eux, ça les rapproche encore plus, parce que là, il n'y a pas longtemps, ils étaient à Séoul. Comment ils ont fait Séoul-Melbourne? Ils avaient un petit avion privé.
Oui, parce qu'ils prennent du pognon, Eric, quand même.
Évidemment, mais je suis d'accord avec vous.
Mais
c'était pas comme ça à l'époque de Federer. Moi, j'avais posé une fois la question à Federer, et lui était gêné qu'il n'y ait pas d'animosité entre des champions. Là, c'est trop cool. Moi, j'aime pas cette. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'aime pas le copinage.
Eric, j'ai une question pour toi sur le terrain.
T'es plus copain qu'Eric.
Cool sur le terrain quand ils s'affrontent les deux.
Non, mais sur le terrain, ils oublient leur amitié parce qu'il y a une rivalité qui est énorme, parce qu'il y a peut-être un record de titre de Grand Chelem à aller chercher, donc ils peuvent pas se permettre d'être copains. Là, ils oublient qui est en face.
Ton rival éternel, tu deviens ami avec lui une fois que tu as arrêté la compétition. Regarde ce qui s'est passé avec Prost et Senna, qui eux se détestaient, mais royalement quand même. Eh ben, ils se sont rapprochés une fois que Prost a arrêté juste avant que Senna ne meure. Et ça a fait la légende du truc. Mais s'ils étaient restés amis toute leur vie, il n'y aurait pas eu ce moment poignant juste avant le dernier Grand Prix de Senna. Oui, c'est ça qui fait l'essence de la légende. Mais vous, la légende, vous en foutez, quoi.
Taisez-vous,
j'en ai marre de vous. J'en ai marre.
Pascal, de moi, j'en ai plus.
Des deux, j'en ai plus.
Vachement, t'es détestable.
Mais peut-être qu'ils sont au début de leur hégémonie. Donc, qui dit que dans quelques temps, ils ne vont pas crêper le chignon, hein. Ouais, ça va peut-être venir.
Je vous aime bien.
Voilà, si l'un prend le pas sur l'autre, peut-être que l'amitié elle sera moins évidente. Donc laissons faire le temps. Jusqu'alors, franchement, on se régale de les voir jouer.
Vrai, moi, je préfère Pogacar, quand il peut mettre des mines à Vingegaard.
Ah, t'aimes bien.
Pas,
ouais.
Hein. Mais bien sûr qu'on adore
pas répondre. Ouais. Eric, salut mon ami, on t'aime beaucoup, s'il te plaît. Bonjour à toi. Ça va? Ouais, ça va bien la vie. Pour savoir, on a un programme intéressant pour nos Français, notamment pour le premier jour de l'Open d'Australie l'année prochaine pour nous.
Oui, alors on devait avoir 7 Français sur la ligne de départ demain. Malheureusement, Arthur Cazaux a renoncé puisqu'il est victime d'une fissure d'un tendon au coude. Donc on aura 6 bleus sur les cours. Léolia Jean-Jean, Corentin Moutet qui est tête de série ici, donc il a peut-être un rendez-vous avec Alcaraz au troisième tour. Benjamin Bonzi, Elsa Jacquemot, Kyrian Jacquet. Et puis à 9h du matin, donc demain matin heure française, Arina Zabalenka va ouvrir son parcours face à une petite Française, Sarah Rakotomanga, qui a eu la wildcard de la FFT.
Ok,
on arrive à en avoir un en fin de première semaine, c'est un miracle presque.
On signe, on signe.
On aura Eric. Quoi qu'il arrive avec nous. Merci Eric, salut, évidemment.
Tu rentreras, toi, au bout d'une semaine.
On te retrouve demain.
Je fais la finale, à coup sûr.
La bise à Roger, hein, tu lui dis quand il veut, il peut venir autour de la table. Ouais. C'est un frère.
Mais s'il nous déteste seulement.
Je crois qu'il n'aime pas RMC. Qui viendra pas.
Lander à Marion, elle va le ramener.
Bien sûr, oui, c'est Djokovic le week-end prochain. Allez les amis, merci Eric Salio, l'Open d'Australie, ça commence cette nuit, évidemment, le premier grand chelem de l'année. Dans quelques instants, on trouve le j'y crois pas, je vous rassure, on s'aime tous, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Copains ou pas, ils sont ensemble dans le même bateau jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport, Christophe Cessieux, Denis Charvet, Pascal Duprat et Fred Weiss qui nous détestent pendant l'émission. On le sait maintenant.
Oui, moi, on les déteste tous.
Ah ouais, voilà.
Et tu sais quoi? Ça me nourrit. Continue, Denis.
Voilà, c'est ça, mais c'est comme ça, toi, de toute façon. Tu disais avant un match.
J'aime qu'on me déteste.
Au coup d'envoi, tu mettais un gros bloc sur un mec pour lui dire, ok.
Ouais, qu'est-ce que tu veux être
casse-pied?
Ouais, je redis donc. J'aurais pas aimé te jouer, toi.
On a compris.
Parce que tu vas être infernal.
On a compris où tu voulais en venir.
T'es trop petit, surtout. Trop petit, oui. J'aurais jamais joué contre lui, ça c'est sûr. Mais
événement sur RMC aujourd'hui. Je vous rappelle, on vous offre des places pour le match de Ligue des Champions OM Liverpool ce mercredi à 21h en Vélodrome. On vous propose de vivre l'expérience RMC. 2 places pour assister au match. 2 maillots collector de l'OM Marseille Monumental. Dès que vous entendez ceci. On a changé une note, je crois, pour pouvoir le passer.
On a enlevé deux notes.
C'est pour le timing. Vous aurez 5 minutes donc pour envoyer OM quand vous entendrez ça au 7-32-16. OM au 7-32-16. Aux places OM Liverpool se gagne uniquement sur RMC. Dans un instant, la dernière heure spéciale coach Courbis, le vestiaire et le buzzer notamment. Mais d'abord, j'y crois pas.
RMC, les grandes gueules du sport. J'y crois pas.
Allez, rapidement, parce qu'on a pris un peu de retard. J'y crois pas. En tennis, les amis, le point à 1 million de dollars doit devenir un classique des tournois du Grand Chelem. Oui ou non, Christophe?
Oui.
Fred?
Évidemment.
Pascal?
Oui.
Denis?
Non, j'aime pas.
Ah, bah tiens, t'aimes pas. Pourquoi t'aimes pas ça? Je rappelle, hein, c'était le buzz de la semaine. L'amateur australien Jordan Smith a remporté le million de dollars One Point Slam, une compétition en marge de l'Open d'Australie opposant amateurs et professionnels sur un point gagnant pour un gain final d'un million de dollars.
Le vainqueur. Un million de dollars australien. C'est pas exactement pareil.
Ouais, on s'approche quand même de l'histoire. Hein. Le vainqueur a battu 5 gros dans Sinner et Anisimova. Pourquoi t'aimes pas ça?
C'est chaud. C'est pas du sport, tout simplement. Voilà, c'est un point, c'est anecdotique. Pour moi, voilà, c'est faire mousser, se faire mousser, faire du buzz, tout simplement. Et pour moi, ça rentre pas dans le cadre du sport.
Ah ouais. Moi, je pense que exactement le contraire. Nous, par exemple, on a le All-Star Game, on a coûté 100 000 dollars, et c'est magnifique.
Oui,
parce que le mec qui gagne, tout le monde est content. En plus, ça permet de mélanger
les amateurs et les pros.
Mais arrête, t'as grandi dans ça, c'est pas du sport, c'est pas la compétition, c'est pas la performance.
C'est du sport. C'est du show.
Alors, je suis d'accord.
C'est du divertissement, ce que tu donnes.
Oui, mais tu sais pourquoi, Denis? Parce qu'on est en 2026, et le divertissement, c'est extrêmement important, en fait. Et si tu fais pas du divertissement dans le sport, ça fait partie du jeu aussi, et je trouve merveilleux de se dire qu'un mec qui a jamais été extrêmement bon au tennis puisse gagner un million de dollars.
Denis est en train de se transformer en vieux réac, hein, quand même. Hein.
Ouais, c'est une tristesse.
Vieux réac. Moi, j'en ai marre de ces combats de boxe qu'on monte.
Mais ça n'a aucun rapport.
Mais là, c'est pas du même tonneau.
Pascal. Ouais. Bon, écoute, pas d'accord.
Non, mais du divertissement sportif, c'est très bien. Le gars, il va prendre.
C'est très bien, oui.
Non, mais
un million de dollars en deux coups de raquette, c'est pas trop mal. Aussi, un million de dollars, c'est 500 000 euros. À peu près.
Mais à ce moment-là, on peut tout inventer à ce moment-là.
Et oui.
Tu mets de l'argent au milieu et tu inventes n'importe quoi.
Oui, mais là,
habituellement,
les exhibitions de Nice, c'est entre quelques happy few, les grands champions, Sabalenka, Kyrgios, j'étais contre, c'était nul. Mais ça, je trouve que mélanger les amateurs et les professionnels et donner la possibilité à un amateur sur un coup de taper Sinner, comme ça a été le cas, même s'il y a peut-être des arrangements, j'en sais rien.
Tu reviens voir Roland Garros?
Bah ouais,
j'aimerais bien qu'il le fasse partout.
Tu mélanges les anciens, tu fais venir Noah, tu fais venir Lecomte, tu prends les amateurs, les filles, et tu mélanges tout ça et tu fais le tournoi. Oui. J'aimerais bien y assister.
Je te mets à Bercy. Bah attention à ton poignet quand même. Fred, je te mets à Bercy. Face à un amateur au milieu de terrain, il faut marquer un panier. Tu le fais?
Ben je le fais, bien sûr. Ce serait génial de dire que quelqu'un peut gagner. Alors 100 000 dollars nous pour le
vainqueur.
Notre culture, c'est faire participer les spectateurs, évidemment, vous les excluez au rugby. Nous, on les fait participer au basket.
Allez, on zappe. J'y crois pas, les amis. J'y crois pas. En Formule 1, Isaac Hadjar va gagner plus d'un grand prix cette saison chez Red Bull. Denis?
Pourquoi pas? J'ai du mal à y croire.
Christophe?
Je n'y crois pas vraiment. Je vais attendre de voir ce que va donner le moteur Red Bull.
Pascal?
Non, j'y crois pas.
Fred?
J'espère, mais j'y crois pas.
Alors, le Parisien de 21 ans va piloter avec Verstappen comme coéquipier, je vous le rappelle. Premier Grand Prix le 6 mars à Melbourne. Lors de la présentation de la monoplace avant-hier, il a dit ceci: j'espère gagner au moins un Grand Prix cette saison. Son meilleur résultat en F1 lors de la première saison sur Racing Bull, c'était 3ème à Zandvoort. Ouais, ils changent tout Red Bull.
Bah oui. Pour la première fois. Oui, mais il y en a d'autres qui s'appuient sur les constructeurs, des gens qui font des moteurs, dont c'est le métier depuis des décennies. Là, Red Bull se lance dans une aventure, même s'ils ont été rejoints par un constructeur. Par Ford, je crois, mais c'est eux qui conceptualisent le moteur et qui le mettent. Donc, j'ai un peu de mal à croire qu'un débutant dans le monde de la mécanique, ou en tous les cas le monde des moteurs, puisse fabriquer un moteur et une voiture capable de battre tous les pros qui font ça depuis des décennies. Donc, voilà, s'il arrive déjà.
Non, mais s'il a une voiture performante, franchement,
si sa voiture est 10 fois plus performante que les McLaren, que tous les autres, évidemment qu'il peut gagner. Et surtout, si Verstappen se casse le pied avant de commencer la saison. Alors là, il pourra en gagner plusieurs.
Les voitures numéro 2 du côté de Red Bull, les voitures numéro 2, en général, ont pas la réputation d'être adaptées au public pilote qui les conduit. Hein. Donc, j'ai mis encore plus de doutes.
Je demande à Maxime Abolin, le producteur, de venir avec une camisole et d'embarquer Christophe Cessieux, s'il vous plaît.
C'est caché.
lui ses cachets.
Allez, très rapidement, les amis, petit tour de table. J'y crois pas. Comme le voulait coach Courbis, la victoire à 3 points sera remise en cause un jour.
Non.
En football.
Non.
Malheureusement. Pascal.
Non.
Fred.
Non.
Et je pense qu'on va tous se mettre d'accord là-dessus. Voilà. On n'a jamais compris ce combat.
Je pense que Roland l'a jamais compris non plus.
Il s'était lancé.
Voilà, c'est ça.
Don Quichotte à l'assaut des moulins et il n'arrive pas réussi à atteindre les moulins.
Son argument, Massu, qui l'énervait, c'était quand il y a un match nul, on dit qu'on partage les points. Mais comment ça, on partage 3 points ? Il y a un point, il y a un point, ça fait 2 points. Le troisième point, il est où ? Dans la nature ? Allez, on l'embrasse, coach Courbis, c'est évidemment, il va être avec nous autour de la table parce qu'il est avec nous dans nos cœurs.
On passe à lui, à Clara et à Olivia.
La dernière, sa famille, évidemment. La dernière heure lui est consacrée. On va faire un vestiaire, un entraîneur doit être un
entraîneur. Stéphane aussi.
Stéphane. Et puis le carton orange, est-ce que le football doit le considérer ? Et évidemment, obsèque aujourd'hui à Marseille à 15h30. Rendez-vous sur place pour lui rendre hommage. Allez, à tout de suite avec vos 32-16.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.